C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je veux revenir sur la présentation hier de ce projet intitulé L'anneau. Une immense structure, le mot le dit, là. Un anneau qui sera installé sur l'esplanade de la place Ville-Marie à Montréal. C'est un projet quand même colossal et c'est l'architecte paysagiste Claude Cormier qui est derrière ce projet-là, comme bien d'autres projets qui ont vu le jour à Montréal. Monsieur Cormier, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous expliquer un peu l'origine du projet, l'idée, comment vous avez pensé à ça avec votre équipe.
Bien, c'est une commande qu'on a reçue de Ivano Cambridge. La commande, c'est effectivement c'est de compléter tout le travail de revitalisation que Ivano Cambridge a fait à l'esplanade de la place Ville-Marie. Et l'espace disponible, c'est effectivement c'est l'espace entre le bâtiment 3 et 4 de la place Ville-Marie qui est en axe sur le Mont-Royal avec l'avenue McGill College. C'est là, à l'heure actuelle, où est-ce que le REM est en construction en dessous de la rue. Et c'est là aussi que la Ville de Montréal a fait un concours pour réaménager tout cet ensemble public-là. Et Ivano Cambridge, dans leur plan de revitalisation, ils ont reconstruit ce grand escalier monumental qui avait été prévu au début des années 60 par l'architecte Henry Cobb, le bureau de New York qui a dessiné la place Ville-Marie, de compléter l'aménagement avec une œuvre d'art importante. Mais l'enjeu, c'est qu'on ne devait pas toucher aux façades parce qu'elles venaient d'être rénovées et que l'escalier est en construction et ça devait être quelque chose qui était aérien. Alors, c'est quand même pas...
Non, il n'y avait pas tant d'options que ça, finalement.
Disons, l'espace, c'était l'air libre. Alors, comment on adresse ça? Alors, c'est là qu'on a eu cette idée de faire un immense anneau qui devient comme une genre de lunette qui met en valeur toute la perspective visuelle, parce que c'est la seule qu'on a du centre-ville sur le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est quand même notre identité urbaine comme ville, avec la montagne au centre-ville. C'est quand même assez unique et c'est ce qui nous définit. Alors, cette idée de genre de grande lentille, de lunette, qui met cette vue-là en premier plan. Puis il faut rappeler que dans cette vue-là, on a quand même 200 années d'histoire de Montréal. Hein? Hier, c'était le 200e anniversaire de naissance de Frederick Law Olmsted, celui qui a dessiné la montagne. C'est quand même pas banal. Le timing est quand même pas pire. On a le Royal Victoria, l'hôpital, le premier hôpital à Montréal d'importance, dans la fin d'axe, qui a été créé en fin des années 1890. On a l'Université McGill qui a 200 ans dans l'axe, en fin d'axe. Et on a tout le développement urbain du centre des affaires, des hôtels, et des galeries commerciales et tout ça, qui flanque de chaque côté de la place McGill College. Et on a notre 60e anniversaire de la place Ville-Marie. Alors, l'idée de ce grand anneau qui doit avoir l'échelle de tout ça, et on a un espace qui fait 30 mètres de dégagement. Et l'espace qu'on a, c'est un espace qui est purement carré, parce qu'on reflète l'architecture moderne des années 60.
Mais avez-vous un immense défi, une fois que c'est conçu, une fois qu'on l'a produit, mais l'installation, ça doit être quelque chose?
Bien, c'est en effet, parce qu'on donne cette impression-là que nous, on veut passer en dessous de l'anneau. On ne peut pas toucher aux structures en tant que telles, aux élévations. Alors, on a quatre points d'ancrage. Un au niveau du plafond du quatrième étage, un plancher du deuxième étage. Et on fait ça de chaque côté. Et on vient entrer des pins de chaque côté, à peine perceptibles, qui vont donner vraiment l'impression que l'anneau flotte. Et on n'a seulement qu'un jeu de 10 cm de chaque côté. Donc, c'est vraiment un anneau qui est fait sur mesure de 30 mètres sur un vide qui fait 30 mètres par 30 mètres parce qu'on a un escalier qui fait qu'on peut passer en dessous. Il y a des questions de sécurité qu'on ne peut pas grimper. Et à ça, on a rajouté un système de chauffage pour répondre aux conditions climatiques hivernales difficiles que nous avons. Puis le changement climatique étant ce qu'il est, la grille du verglas qu'on a en 98, c'est des éléments qu'on peut réavoir éventuellement, c'est sûr, ouais, dans le futur. L'idée de la glace, l'idée de la formation de verglas et tout ça. Donc, on a quand même 6000 pieds linéaires de chauffage à l'intérieur.
Ça, c'est incroyable.
Qui est raccordé.
Monsieur Cormier, ma collègue Elisabeth est en studio. Elle va vous faire sursauter un peu parce qu'il y a une théorie du complot qui concerne votre projet. Elisabeth, peut-être vous résumer ça.
Oui, absolument. Ça circule présentement sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous donc, M. Cormier, qu'il semble que cet anneau soit en fait une porte interdimensionnelle naturelle, un portail vers l'au-delà. Et cette théorie nous dit qu'il ne faut en aucun cas passer à travers l'anneau du centre-ville. Je ne sais pas s'il va être assez bas là, sur le sol pour qu'on puisse passer au travers. Là.
On passe en dessous.
OK, bon, c'est correct. Tant qu'on ne passe pas à travers.
Ça nous évite de changer de galaxie.
Oui, c'est ça. Ça peut nous mener vers la 9e dimension ou encore ailleurs. Alors, faut pas passer là-dedans.
Monsieur Cormier, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, puis bravo pour le travail fait par votre équipe et vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Claude Cormier, qui est l'architecte paysagiste. C'est important, ces œuvres d'art dans un centre-ville, parce que ça donne une autre couleur que des bâtiments. Je me souviens de Marie-France Bazou qui avait beaucoup parlé de ça, de l'importance de l'aménagement urbain, pas juste de construire, là, tu sais, il y a combien d'étages, puis...
Ça devient une attraction touristique aussi. Moi, je pense à Chicago, la fameuse goutte d'eau. Tout le monde veut aller
voir. La goutte de mercure, là, on a l'impression que ça ressemble à ça. Là,
ouais. Bon, ben voilà pour l'anneau. Maintenant, pour la météo...
Mais l'anneau, c'était comme l'émission au cœur du temps. Là. Tu sais, tu passes à travers.
Bon, ça y est. Il repart avec ses vieilles.
Tu te ramasses au Moyen-Âge, mettons. Là. Les visiteurs.
Ah, boy.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
L'histoire de la petite Savannah, 3 ans, nous a tous touchés, bouleversés. Je rappelle que cet enfant, Savannah Groslow, a développé un cancer rare, forme assez unique. Les traitements, les parents habitent Trois-Rivières, doivent faire la navette vers l'hôpital de Sainte-Justine. Et là, on découvre que non seulement elle souffre de ce cancer rare, elle réagit pas très bien au traitement, mais en plus, les analyses ont permis de découvrir qu'elle a des risques assez élevés de développer différentes formes de cancer tout au long de sa vie. C'est une histoire qui nous arrache le cœur. On avait parlé avec sa grand-mère au mois de mars dernier, le 15, pour être plus précis. Elle est avec nous ce matin, Nancy Lacombe. Madame Lacombe, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcan.
Parlez-moi un peu de Savannah. Quand on s'est parlé la dernière fois, donc il y avait ce diagnostic de cancer rare, elle se préparait à avoir des traitements. Comment ça s'est passé?
OK. Nous autres, on avait eu le diagnostic de tumeur de Wilms. Dans le cas de Savannah, c'était stade 5. Tout de suite en partant, ce qui était encore plus rare de l'avoir sur les deux reins, ce qui est le cas de Savannah. Puis là, elle faisait ses traitements de chimio, puis les médecins se demandaient pas comment, ils se demandaient toujours comment ça se fait que son taux de plaquettes et de globules était dangereusement bas. Ils comprenaient pas pourquoi. Qui ont décidé de faire des recherches plus poussées pour finalement se rendre compte que Savannah, elle a un problème au niveau de la moelle épinière. C'est une malformation génétique. Ça s'appelle l'anémie Fanconi. Puis c'est l'anémie Fanconi qui a causé les tumeurs de Wilms. C'est à cause de ça. Fait que nous, on pensait que la cause première... c'était les tumeurs de Wilms, mais non, c'est l'anémie de Fanconi qui a causé les tumeurs de Wilms.
Et est-ce que je comprends que les traitements de chimio, en tout cas certains traitements, ont dû être interrompus parce que ce sont des traitements qui, pour elle spécifiquement, risquaient d'être dangereux?
Effectivement. Il y a deux noms de chimio, ça ne me donne rien d'embarquer là-dedans, de toute façon, ouais. C'est compliqué. Que Savannah, elle ne peut pas prendre. Ils se sont rendus compte qu'elle réagissait mal à ça. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils arrêtent ça le plus rapidement possible parce que ça pouvait faire l'effet inverse, là, dans le fond, sur les tumeurs. Fait que ils ont arrêté. Puis là, ben ils doivent opérer le plus rapidement possible avant que les tumeurs regrossissent parce que la seule chimio qu'elle peut prendre n'est pas suffisante pour faire diminuer les masses.
Et en plus de ça, ça veut dire que potentiellement, elle peut développer d'autres types de cancers tout au long de sa vie.
Oui, vu qu'elle est porteur du gène.
Wow.
Oui, vu que puis à ce jour, il n'y a pas de traitement là, pour ça, là, pour l'anémie de Fanconi.
Et là, elle est toujours à Sainte-Justine?
Elle est toujours à Sainte-Justine. J'ai parlé avec la mère, qui est ma fille, ce matin. Puis elle m'a même parlé là, qu'étant donné la situation, probablement qu'il va falloir qu'il déménage. Là. Il envisage de déménager plus proche de Sainte-Justine. Étant donné que la vie de Savannah va se... Sainte-Justine va être sa deuxième maison, là, voire même la première. Là, fait qu'elle va être souvent là-bas, fait qu'ils n'ont pas le choix.
OK, parce que, bon, votre fille habite avec le reste de la famille
à Trois-Rivières,
puis donc, ça veut dire faire la navette, puis les deux parents là, qui se relaient à l'hôpital.
Effectivement. Ça devient lourd pour eux. C'est beaucoup de voyagements, puis tout ça. Fait que, oui, ils envisagent ça, là. Pas pour demain, là, mais éventuellement, vu que la situation là, de Savannah, là... au début, on se disait, bon, OK, les tumeurs de Wilms. Là, on s'était dit, ma fille était toute, on était toutes, pleines d'espoir. On se disait, bon, ben garde, c'est un temps passé, mais après ça, on va mettre ça derrière nous, puis on va s'en sortir encore plus fort, là, tu sais. Mais là, avec le deuxième coup de masse qu'on a eu dans le front avec ce diagnostic-là, ça change la donne. Là. C'est plus pantoute pareil. Là.
Est-ce qu'elle a pu quitter quand même Sainte-Justine pour retourner chez elle pendant quelques jours?
Oui, elle a été capable de le faire des courts séjours. Elle a fait quelques courts séjours là, d'environ 3-4 jours, plus ou moins. Puis il fallait toujours qu'elle retourne à l'hôpital parce que, bon, ben soit que son nez se mettait à saigner, c'était pas arrêtable, ça faisait descendre. Ses plaquettes, ses globules, elle se ramassait toujours avec des transfusions de sang, des transfusions de plaquettes. Fait que là, c'est là qu'ils ont décidé de regarder, puis de pousser plus loin pour voir là, c'est quoi qui se passe, pourquoi que Savannah réagit comme ça au traitement de chimio.
Savannah, elle a 3 ans.
Oui.
On comprend là ce qui l'afflige physiquement. Comment est son moral pour une petite fille de 3 ans qui vit ça?
Ben, c'est des up and down. Tu sais, il y a des fois où c'est vraiment plus difficile pour elle physiquement. Puis quand c'est difficile pour elle physiquement, ben souvent, si elle est en douleur ou quelque chose, ils sont obligés de donner là, des calmants. Fait qu'elle dort beaucoup, ces choses-là. Mais sinon, quand elle est réveillée, c'est hallucinant de voir comment cette petite fille-là est tellement une petite fille forte, puis une petite fille... c'est elle qui prend la main de sa maman, puis qui met la main de sa maman, puis qui regarde sa maman, puis elle dit « Je t'aime, maman, ça va bien aller. » C'est la petite qui fait ça.
Puis dans la famille, il y a aussi une petite fille de 8 ans, puis un petit bonhomme de 9 ans.
Oui.
Eux, comment ils vont?
Ils vont, malgré la situation, ils vont bien, mais ils sont un petit peu, même s'ils sont pas pleinement au courant. C'est difficile pour des enfants de savoir vraiment dans quel état que le sœur se trouve. Puis pour les parents, ben ils pèsent le mot aussi là, tu sais, dans la façon de mentionner ça aux enfants. Fait que je sais pas s'ils sont pleinement au courant là, vraiment là, de la condition de Savannah, mais par contre ils prennent ça dur, ils s'ennuient de leur sœur. Tu sais, je veux dire, c'est une situation pour eux, ça fait plusieurs mois. Ils voient leur sœur de temps en temps, là, tu sais, là, quand elle est capable de sortir. Fait que moi, je pense qu'ils...
Ouais.
Je sais pas.
Non, je comprends. Écoutez, si on résume, on savait que c'était grave, que c'était rare comme maladie.
Oui.
Mais ce qu'on découvre, c'est que les traitements, on est obligé d'en arrêter dans certains cas, que c'est une petite fille qui, tout au cours de sa vie, va vivre avec... un potentiel de cancer qui peut se manifester. Je pense que vous me disiez qu'il y avait peut-être un risque, peut-être même de cancer au cerveau. Autrement dit, c'est un enfant qui est vulnérable, qui va l'être tout le temps, puis qui va toujours être hyper suivi à l'hôpital.
Suivi très serré qu'ils ont mentionné. Ils n'ont pas le choix. C'est comme là, aujourd'hui, ce matin, elle passe un IRM pour savoir, parce que là, ils veulent l'opérer le plus rapidement possible, étant donné qu'ils ne peuvent pas donner les deux chimios qui font fondre plus rapidement les tumeurs de Wilms. Fait que ça, c'est le premier traitement, là, dans le fond. C'est la première affaire qu'ils doivent s'attaquer le plus vite possible, là. Régler ce problème-là, retirer les tumeurs pour pouvoir, après ça, s'asseoir, les spécialistes ensemble, pour travailler le deuxième cas de Savannah, là, qui va être tout au long de sa vie, là. Le plan de match. Là.
OK. Si on aborde un aspect plus terre-à-terre, j'allais dire, là, la question financière, c'est que La mère de Savannah a quitté le travail pour être près de sa fille.
Oui.
Là, je rappelle que les parents font la navette puis se croisent à peine, là, parce que quand un est à l'hôpital, l'autre est à la maison.
Littéralement pour quelques secondes, je veux dire, quand c'est le tour du père, un exemple, puis bon, il va se stationner à l'urgence en avant, la mère, elle sort, après ça, le père rembarque, lui, c'est-à-dire, il s'en va dans l'hôpital, c'est vraiment comme ça là, que ça se passe.
Donc, il y a des coûts de rattacher à la maladie, puis on peut comprendre aussi l'impact, là, en fait, au-delà des déplacements, là, le reste. Il y a un GoFundMe qui a été créé, qui a permis d'aller chercher à peu près 23 000, 24 000 $ sur un objectif de 75 000. Puis on comprend là, que c'est pour aider la famille. Puis c'est pour ça qu'on en parle ce matin. S'il y a des gens
pour aider la famille. Puis il ne faut pas oublier, M. Arcan, aussi, que les deux plus vieux, là, quand on regarde, c'est pas juste pour la situation de Savannah, c'est pour la situation familiale. Je veux dire, les deux plus vieux, des fois, là-dedans, veut pas, ça reste des enfants. Fait qu'ils se sentent un petit peu, des fois, je sais pas là, comment le dire, je vais le dire comme je le pense, brimés un petit peu avec
c'est
la situation. Tu sais, ils veulent aller, mettons, à certains endroits où c'est plus difficile pour les parents. S'ils sont à l'hôpital ou, tu sais, il y a l'argent aussi. Ils sont obligés de prendre de l'argent. Faut qu'ils se nourrissent là-bas. Fait que les enfants, quand ils demandent des choses... Ben, c'est pas toujours possible d'accorder ce qu'il demande. T'sais?
Madame Lacombe, merci d'avoir donné des nouvelles. Puis nos pensées sont avec vous. La famille de Savannah, la petite, tout le monde, c'est extrêmement touchant ce que vous nous racontez. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous.
Oh, merci, moi. Merci tellement à vous de m'avoir reçu.
Merci à vous. Bonne journée. Nancy Lacombe, qui est la grand-maman de Savannah, qui a 3 ans. Je fais ça très, très rarement, vous le savez, là, mais on avait parlé donc le 15 mars dernier de cette situation-là. Tant mieux si ça peut aider. Je sais que les médias régionaux dans le coin de Trois-Rivières aussi en parlent. Mais ce sont des moments que j'ai pas besoin de décrire pour la famille. Puis vous faites ce que vous voulez. C'est quelque chose. Puis moi, ma mère, elle m'a toujours dit la charité, c'est une affaire personnelle, discrète. Puis on donne ou on donne pas, puis on assume, puis c'est tout. Moi, je vous expose une situation. Et c'était déjà grave, mais la petite a 3 ans, là. Puis elle, ça veut dire un suivi, comme disait Mme Lacombe, hyper serré à l'hôpital, puis d'essayer de trouver ce qu'elle a, puis quand on sait ce qu'elle a, comment intervenir de façon efficace. C'est assez bouleversant. Puis comme... On peut souvent ajouter, après des entrevues comme celle qu'on vient de vous présenter, le reste de nos problèmes est assez secondaire. C'est là qu'on commence à sous-peser les choses.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Docteur Simon Maltais est un chirurgien cardiaque. Il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé au Québec. Il a publié un livre, le titre « Code bleu ». Et le sous-titre, si on veut, c'est « Comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent ». Docteur Maltais, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Avant de parler du système comme tel, je voudrais, et votre livre est quand même assez percutant dans ce sens-là, prendre ça du début, c'est-à-dire les admissions en médecine. Vous décrivez un peu cette compétition, ça varie d'un établissement à l'autre, mais vous êtes arrivé là avec un ego assez démesuré en disant « je suis le meilleur, puis l'université qui ne me recrute pas va perdre quelqu'un de grand talent ».
Effectivement, ça a été un processus de plusieurs années de comprendre comment ça avait influencé non seulement mon admission, mais ma carrière, parce que j'allais pas juste être étudiant en médecine, j'allais être président de classe, j'allais pas juste être chirurgien, j'allais être chirurgien cardiaque de renom. Alors il y avait toujours cet élément de compétition là qui malheureusement n'est pas unique à moi là. Il y a beaucoup de cette mentalité là quand on arrive en médecine, les gens de en très bas âge vont se construire un dossier ou vont se construire un CV pour rentrer en médecine, puis c'est pas tout le temps la meilleure chose à faire.
Mais ce que je me posais comme question en lisant votre livre, est-ce qu'on tient compte des habiletés humaines, des aptitudes, par exemple, ou c'est carrément les notes, les connaissances, et que les plus grands cerveaux vont en médecine, même si parfois dans les relations humaines, ils sont pas très doués?
C'est pas toujours. Il y a beaucoup de processus qui ont changé depuis quelques années. Il y a beaucoup, une grosse proportion qui est malheureusement encore les notes. Là, je sais que les systèmes d'admission se basent beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de variations d'hôpitaux en, c'est-à-dire que d'université en université, où parfois on met plus d'emphase sur certaines choses. Moi, quand je suis rentré à l'université. Où j'étais, c'était un questionnaire qui essayait de nous prendre sur certaines attitudes ou sur certaines. Avez-vous des amis, avez-vous pas d'amis? Et puis les questions se répétaient, puis on essayait de prendre les gens dans certains. Fait que c'est pas parfait, mais il y a encore beaucoup, une grosse proportion qui est encore sur les notes d'admission.
Et quand on part de l'université, là, ça implique beaucoup d'années d'études, ça implique un niveau d'endettement élevé, bien sûr. Mais quand vous entrez dans ce système-là, tout fait en sorte que vous êtes Dieu, là, c'est-à-dire que vous travaillez des heures, des heures, des heures, vous investissez je ne sais pas combien de temps, vous mettez de côté votre vie personnelle, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et les collègues médecins, entre vous, c'est un peu ce système-là qui entretient cette image du médecin.
C'est extrêmement difficile parce qu'on rentre dans un système, on pense que c'est compétitif quand on arrive en médecine, mais c'est d'autant plus compétitif un coup qu'on est en médecine, c'est compétitif pour avoir les meilleurs postes, c'est compétitif ensuite pour avoir les salles d'opération, c'est compétitif pour avoir le meilleur type de patient. Alors, il y a de la compétition, puis ça, c'est pas tout le temps facile à gérer, puis on est exposé très jeune à soit de la mortalité, à des responsabilités accrues, puis ça pour une longue période de temps. Là où la plupart de nous formons notre personnalité ou nos traits de personnalité. Alors, beaucoup de choses nous sont imposées à des moments critiques de notre croissance personnelle. Et puis ça, malheureusement, ça va être, c'est prouvé, ça va être figé ensuite pour les années qui vont suivre.
Ce qui est très frappant dans votre livre, parce que je le disais, il y a votre témoignage, mais il y a d'autres professionnels de la santé, là, d'autres travailleurs de la santé qui racontent un peu leurs expériences, c'est que rapidement, la fatigue s'installe, de l'anxiété, de la dépendance face, par exemple, à drogue, alcool. Vous, ça a été l'alcool, mais difficulté à avoir des relations autres que professionnelles. Autrement dit, vous êtes dans votre bulle, puis votre bulle est en train de vous épuiser, là.
Effectivement, c'est un cercle vicieux. Moi, effectivement, mon histoire, moi, ça a été un élément de dépression, de burn-out, de manque d'empathie, de désintérêt complet, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Puis évidemment, le bandage là, vers l'alcool. Mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont montrer les différents niveaux de gris, si on veut, dans l'aspect d'échec ou dans l'aspect d'épuisement professionnel. Et puis c'est pas tout le temps ce qu'on pense. Et puis on parle de maladie de soins de santé parce que c'est un processus qui est souvent chronique. C'est pas quand on arrive au burn-out ou à l'anxiété ou au problème d'alcool ou au problème de dépendance ou au divorce. C'est pour certains c'est tout ensemble, mais c'est un événement aigu. Puis si on ne règle pas le problème de fond ou le problème plus chronique, on se retrouve à générer le même problème. Puis ultimement, c'est des patients qui sont pris en otage parce que si on n'a pas de ressources, si on manque d'expérience, si les gens d'expérience vont quitter le métier. Écoute, moi, juste dans mon domaine, là, dans la dernière année, je connais au moins 4 personnes qui ne se sont pas trouvées de travail au Québec ou qui sont parties aux États-Unis pour vivre d'autres choses. Par épuisement ou par intérêt ou par cynisme. Donc c'est les patients ultimement qui vont payer de ce problème-là.
Le ministre est en train, M. Dubé, de préparer sa refondation du système. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire là pour que ça ait de l'allure, là, cette espèce de grand principe général, ce qu'il devrait considérer?
Le problème avec tout ça, M. Arcan, c'est le plan de redressement arrive à un moment où on sort d'une crise, où on pense, parce qu'on parle plus de la crise, que les gens sont guéris puis qu'il n'y a pas de répercussions dans le système de ces deux dernières années ou même des années auparavant. Il y a des endroits où il y a 40% des infirmiers et des infirmières aux soins intensifs qui sont partis du système. Et puis là, on a de la difficulté à fonctionner puis à offrir des services. Je pense que n'importe quel plan de redressement doit reconnaître ça puis doit impliquer les gens qui ont vécu ces situations-là. Je pense que c'est une erreur de vouloir imposer, malheureusement, encore une fois, au personnel médical des mesures qui sont pas toujours adaptées. Je pense qu'on a un travail de perception, même autant en tant que médecin, à changer. Je pense qu'il y a une perception qu'on fait trop d'argent, qu'on travaille pas assez.
Le docteur Bashing, ça vous tente, ça?
Ben, ça me tente un peu, mais surtout sur la perception que les gens pensent de nous, ça nous fait beaucoup de peine. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où je parle pas à des intervenants, soit infirmiers, où je parle pas à des collègues médecins qui sont affectés par cette perception-là. Mais en même temps, on a une part de responsabilité. Si on est rendu là, on peut pas juste être passif puis écouter la perception. Il faut travailler à changer cette perception-là. Puis c'est là où j'ai un peu de difficulté à seulement être passif dans cette perception-là.
Mais ce que j'ai senti en lisant votre livre, c'est la nécessité d'écouter le personnel puis de tenir compte de qui ils sont puis quelle est leur réalité. On peut pas faire du temps supplémentaire obligatoire à du monde de façon systématique sans avoir à payer le prix. Si je tiens pas compte des ressources humaines puis de la matière première que j'ai entre les mains, je pourrais jamais réformer ce système-là.
Ça va être la crise qu'on vit actuellement. Puis c'est là où le livre Code Bleu, c'est non seulement une crise, mais c'est aussi un moment pour nous d'identifier ce problème-là, puis de vraiment le prendre comme le problème majeur. Il faut incentiver les gens à travailler dans le domaine de la santé. Il faut récompenser les gens à travailler dans le domaine de la santé. Il faut les récompenser certains milieux de la santé. Je pense au CHSLD. J'ai travaillé moi-même en CHSLD durant la pandémie. Durant la pandémie au Québec, puis c'était épouvantable. Il faut vraiment aider les gens à vouloir donner d'eux, puis de le donner de façon équilibrée dans le domaine pour avoir une longévité, puis une de façon prospective, améliorer les conditions.
Quand vous êtes arrivé, il y avait même des gens qui étaient décédés depuis quelques jours, c'est ça?
Ben, c'est épouvantable. Je le raconte un peu dans le livre. Là. Ouais. Il y a des étages où on se rendrait pas, il y avait trop de travail, puis on trouvait les personnes âgées, là, au quatrième ou au cinquième étage, après quelques jours, on voyait de toute évidence qu'il était décédé depuis quelques jours. Alors, les conditions dans ces milieux-là, où les gens sont les plus malades, sans vouloir critiquer le système, là, au Québec, on donne beaucoup, beaucoup de nos taxes au système de la santé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de mortalité dans le CHSLD, puis potentiellement le pire au Canada et à travers le monde. Là, on se demande où ça s'en va, puis c'était épouvantable ce que les gens vivaient dans ces milieux-là.
Je le disais, vous avez l'expérience au Québec, vous avez l'expérience aux États-Unis. Souvent, on regarde le système américain comme étant fantastique, efficace. On comprend que les gens doivent payer, contrairement... Bon, quand vous faites la comparaison entre les deux systèmes, qu'est-ce que vous dites?
Mais les systèmes, les thèmes sont les mêmes. Hein. Quand on parle de santé mentale, les thèmes sont les mêmes. Je dirais qu'une des grosses comparaisons qu'il faut peut-être noter, puis c'est pas quelque chose qui est une nouvelle là, c'est l'accessibilité. Moi, quand j'étais au Québec, là, il y a des matins où je m'assoyais au café, puis je savais que j'allais être cancellé là, s'il y avait une tempête de neige, s'il y avait eu un événement la veille, s'il y avait eu une fête. Je savais que ma journée opératoire allait être cancellée. Il y a des journées qui étaient remplies de patients, qu'on savait que les patients allaient être cancellés d'avance. Et puis ça, ça n'arrive à toute fin pratique pas aux États-Unis. Bon, le système est cher, les docteurs sont... La perception est la même. Là, l'accessibilité est peut-être un peu plus facile. Mais les deux systèmes ont leur plus puis leur moins. Mais une des grosses différences, je pense, c'est l'accessibilité. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à gérer quand j'étais au Québec.
Notre invité ce matin, donc, Dr Simon Maltais, qui est chirurgien cardiaque, qui propose son livre « Code bleu ». Il y a des auditeurs qui nous ont écrit en nous disant que vous aviez opéré Guy Lafleur, c'est vrai?
Il y a quelques années, j'ai eu la chance, oui, d'opérer puis d'entrer en contact avec Guy Lafleur, faire sa chirurgie cardiaque au Québec quand j'étais au CHUM, oui.
Puis vous avez gardé contact avec lui ou...
Ouais, depuis ça. En fait, c'est ça qui a été le plus bénéfique. Autant cette personne. Tu sais, moi, je pense que je l'ai aidé, mais il m'a aidé aussi beaucoup dans les deux dernières années. Il n'y a pas eu un mois où on ne s'est pas texté des emojis de soleil ou de sourire ou de. C'est quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup à donner malgré tout ce qu'il vivait au cours des dernières années. Évidemment, c'est triste là, la nouvelle. Là, puis je vais faire mes condoléances à la famille, là, mais. une personne exceptionnelle avec qui j'ai gardé contact là, au cours des dernières années depuis son intervention.
Et en quoi vous dites il m'a aidé autant que j'ai pu l'aider?
Ben, je lui avais donné un livre à l'hôpital quand il a été relâché de l'hôpital parce qu'à ce moment-là, lui aussi avait des grosses choses à vivre. Puis quand il a su que j'avais un élément de dépression, que j'écrivais un livre, on s'est parlé au téléphone et puis on s'encourageait l'un l'autre. Moi, je lui envoyais des emojis. Ah ben, j'espère que ça va mieux. J'espère que je t'envoie un peu de soleil. Et puis lui m'envoyait un peu la même chose. Alors malgré sa maladie, on est resté en contact puis on s'est aidé dans un processus qui était difficile de mon côté aussi, très très humain comme interaction. Puis j'ai appris beaucoup évidemment d'un homme phénoménal.
En terminant, je veux revenir sur certains points que vous soulevez dans le livre. Les erreurs médicales, de faire des choix, quel patient privilégier. Comment vous gérez ça sur le plan humain?
C'est très difficile, M. Arcand. Il y a des choses, puis dans le livre, là, on parle beaucoup de choses de l'intérieur. Si les gens veulent avoir, puis je pense pour le patient, pour le public en général, il y a des systèmes d'étoiles pour les malades qui ont été cancellés, qui sont sur la liste opératoire. Les patients ont des étoiles à côté de leur nom, là. Il y a des patients qu'on sait vont être cancellés avant même de rentrer à l'hôpital. Et puis ça c'est une tragédie humaine incompréhensible parce que on est là pour aider les gens. Il y a des patients opérés puis on est formé pour ça. Puis au total, c'est extrêmement difficile de devoir faire des choix, puis parfois même de voir que le système ne peut juste pas nous aider à opérer autant de patients qu'on voudrait, là.
Docteur Maltais, merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous. C'est un livre non seulement qui s'adresse aux gens qui œuvrent dans le réseau de la santé, mais comme vous dites, les patients devraient lire ça. Ça donne une autre perspective. Merci à vous. Bonne journée. Docteur Simon Maltais, Code bleu, comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent. Préface d'ailleurs du docteur François Marquis et du docteur Alain Vadeboncœur.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va parler du métro ce matin pour deux raisons. On apprenait hier que les chiens seront admis dans le métro, mais attention, là, c'est un projet pilote. Et aussi, c'est le report, encore une fois, de l'installation de ce qu'on appelle des portes palières. Pour être plus clair, là, ce sont des portes anti-suicide. Il y a un arrimage avec ces portes qui sont installées sur les quais des stations de métro. On le voit dans plusieurs systèmes de transport en commun dans le monde. Et les portes de wagons comme ça pour mieux protéger les gens. Éric Allen Caldwell est le président du conseil d'administration de la STM. Monsieur Caldwell, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ben, je vais commencer par ces portes palières. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. Je sais que ça coûte cher. Hier, j'avais cru comprendre qu'on allait de l'avant dans les prochaines années. Finalement, c'est repoussé dans le temps encore, là.
Oui, et les portes palières, on va se le dire, là, c'est un excellent système pour, comme vous le dites, comme méthode de prévention pour les tentatives de suicide, mais aussi pour tous les autres types d'intrusions. Ça assure la sécurité et la fiabilité dans le métro. Donc, les portes palières, on en veut, là. Mais là, la réalité, là, c'est qu'on est dans un contexte financier où on a un métro qui a 50 ans. Puis vous le savez, hein, comme pour d'autres de nos infrastructures au Québec, là, on faut lui donner de l'énergie, il faut lui donner de l'amour, il faut le réhabiliter pour un deuxième cycle de 50 ans, là. Donc, il y a énormément des travaux d'entretien dans le métro pour qu'il roule, pour qu'il soit fiable. Il y a des postes de ventilation, des postes de redressement, certains éléments techniques que je ne connaissais même pas il y a à peine quelques mois. Mais là, soyons clairs, le métro, on a négligé pendant des décennies son entretien. Et dans la priorisation, il faut redonner un peu ça comme priorité et il faut se donner les moyens aussi de faire des portes palières. Mais dans le cadre financier que j'ai actuellement, on n'a pas les moyens. C'est pas un projet qu'on abandonne et on veut trouver les moyens de les faire.
OK, mais quand vous me parlez de la longue liste comme ça, d'investissement là, pour refaire une beauté au métro, là, on s'entend qu'il n'y aura pas de porte palière avant bien des années, là. C'est pas une priorité dans le contexte actuel.
Ben, si à un moment donné, on décide que le métro devient une priorité, oui, pourquoi pas? Je pourrais dire la même chose pour les ascenseurs dans le métro qui coûtent une fortune. Là, là, on a un formidable patrimoine qu'est le métro de Montréal. Là. Et là, on est à une étape charnière de son développement où il nous a bien servi pendant 50 ans, mais là, on pourrait avoir la chance qu'il nous serve encore bien pendant un autre 50 ans avec plus de services, avec des meilleurs trains, avec des meilleurs contrôles de train, avec plus de sécurité, plus de fiabilité et des portes palières. Mais encore là, je vous le dis, puis vous avez reçu M. Tremblay, notre DG démissionnaire à votre antenne, là, qui disait qu'on avait des structures de financement qui n'étaient pas adaptées à nos besoins d'aujourd'hui. Mais un de ces besoins-là, c'est réhabiliter le métro puis améliorer ses équipements avec des portes palières. Donc moi, c'est ma mission de trouver les moyens pour le faire. Là, présentement, je vous le dis, je ne l'ai pas.
OK, c'est clair. Là, il y a tout un débat autour de ce projet pilote là, pour accueillir des chiens dans le métro. Là. Si vous aviez à définir pour les auditeurs ce matin, là, ça va marcher comment ce projet pilote? Quelles sont les modalités?
Bon, il y a eu un débat au conseil municipal. Hier, l'opposition officielle a proposé de permettre les chiens dans l'ensemble du réseau. Moi, je vais proposer à mon conseil d'administration de la STM un projet pilote sur les chiens dans le métro. C'est un projet pilote. Ce qui est important, c'est de tester la cohabitation. C'est pas tous nos clients qui souhaitent avoir des chiens dans le métro, donc il faut s'assurer qu'on l'introduise de façon sécuritaire et on assure une bonne cohabitation. Et comment est-ce qu'on peut contrôler ces différents facteurs-là? Dans un premier temps, c'est dans le métro. C'est pour ça qu'on fait un projet pilote, justement pour voir si ça fonctionne bien. Vous savez, dans d'autres villes à travers le monde, ça fonctionne très bien. Paris, Berlin, Munich, Toronto, Londres. Donc, voyons voir si nous, on est capable de le faire. Et puis, voyons voir après ce qu'il y a à réajuster. Parce que la priorité, c'est que les gens se sentent bien et en sécurité dans le métro.
Mais par exemple, est-ce que, je comprends qu'on n'a peut-être pas tous les détails, là, mais en gros, les questions que les auditeurs se posent, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait, par exemple, un wagon réservé aux chiens? Si moi, j'aime pas les chiens, si je suis allergique, je ne vais pas me retrouver à côté d'un chien dans le métro.
Oui. Présentement, vous comprenez, les chiens sont permis en cage et les chiens d'assistance en laisse. Donc, la question des allergies se pose déjà sans trop d'enjeux, je dois dire. Mais quand même, c'est le genre d'éléments qu'il faut bien étudier dans le cadre d'un projet pilote. Moi, je ne suis pas à l'étape d'annoncer le projet pilote. La prochaine étape, c'est de le proposer à mon conseil d'administration. Puis après, au cours des prochains mois, bien, on reviendra avec des balises. Mais c'est certainement une des préoccupations, les allergies, les gens qui ne désirent pas côtoyer des chiens, l'aspect de la sécurité. Alors, on veut faire un projet pilote en se donnant les meilleures conditions de succès. Et pour ça, mais on préfère commencer par un projet pilote très prudent pour se donner des bonnes conditions de succès.
Là. Est-ce que ça pourrait inclure, là, puis je suis pas en train de faire des propositions, là, mais par exemple, il y a des auditeurs qui disent ça, le port obligatoire de la muselière.
Ben, c'est ce que fait Paris, Berlin, Munich, Vienne, Madrid, Barcelone, Rome, Naples, Lyon. Donc, certainement, oui, c'est quelque chose d'étudié.
OK. On peut ajouter Montréal à la liste. Merci, M. Caldwell.
Merci.
Au revoir. Éric Allen Caldwell, donc, qui est le président de la STM. Alors, les détails de ce projet pilote seront connus. Je sais que beaucoup de gens me disent, ouais, mais là, on n'est pas tous à côté d'une station de métro si on veut prendre l'autobus. Juste vous dire que c'est un projet pilote 1, donc ça va être limité dans le temps puis pour ce qui est de l'endroit. Puis on verra comment ça va se passer. Puis là, je veux dire, c'est un débat qui enflamme entre les gens qui veulent que le chien soit présent dans le métro puis d'autres qui disent, moi, j'haïs les chiens, je veux pas voir de chien puis je veux pas être dans le même wagon que quelqu'un qui est avec, je sais pas, moi, un pitbull. Ou, alors, mais partout dans le monde, en tout cas dans beaucoup d'endroits, cette cohabitation-là existe.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
La saison du Canadien va se terminer.
Ce soir, contre les Panthers de la Floride, 82e et dernier match de cette saison qui a été longue un petit peu. Hein? Je pense que avec plusieurs péripéties et qui n'a pas été comme on pensait qu'elle serait.
Non.
Après la participation en finale de la Coupe Stanley.
Mais c'est assez incroyable quand tu y penses. Puis là, calendrier inhabituel et tout ça, là, mais de passer d'une finale à la dernière place au classement général avec changement d'entraîneur, blessé, départ.
La COVID.
Mais tout ça ensemble. Là.
Le calendrier qui a été modifié en cours de route. Non, ça a été, écoute, là, moi personnellement, là, et pour plusieurs, et probablement pour notre invité aussi, c'est du jamais vu. au cours de sa carrière. On parle de Pierre Gervais, ça va être son dernier match ce soir. C'est lui qui est le gérant d'équipement chez le Canadien de Montréal. Salut Pierre.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Comment ça va?
Bonjour. Ça va très bien. Très, très bien.
Donc, t'as pas de regrets, rien, tu...
Oh boy, non. Si j'en avais eu, là, je vais dire qu'avec cette saison-là, là, c'est assez clair dans ma tête que je suis rendu là, c'est terminé, puis c'est bien, bien fun. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Oh, tu parles de la saison. Est-ce que ça a été la saison la plus difficile de ta carrière?
Oh, assurément. Assurément. Écoute, tu sais, je vais dire, bien franchement, ça a commencé, là. Tu sais, nous, habituellement, les gars, ça fait quelques mois qu'ils se sont pas vus, puis qu'on les a pas vus, qu'ils sont pas venus ici. Puis les gars arrivent avec leur équipement, puis tout le monde sont de bonne humeur, puis ça jase. Mais cette année, là, c'était à peine quelques semaines après la fin de notre saison. Les gars sont arrivés, tu sais, déjà, ils étaient fatigués, ils traînaient des pieds, ils étaient déçus par l'élimination, puis pas qu'ils n'étaient pas contents de se voir, là, puis c'était, le feeling était différent. Puis même nous autres, c'était comme, c'était top de recommencer, là. Fait que ça partait de comme ça, puis là, en plus, ben comme vous avez dit, toutes les blessures du début de l'année, puis le truc à Carey Price, puis après ça, ben la COVID, puis tout ce que tu veux, c'était comme, non, c'était pas le fun partout, là.
Est-ce que tu dirais que déjà au mois d'août, tu voyais venir un peu ce qui s'en venait?
Oui. Oui, on a parlé de nous autres, là, puis ben peut-être pas si pire que ça, puis tu sais, je savais déjà les blessés, j'avais de bonnes idées, c'est dit « Oh boy, ça va pas bien », puis là, quand tu vas avoir des gars comme ça, puis après ça, ben le truc à Carey, puis tu sais, c'était un feu roulant de déception et de mauvaises nouvelles.
Je sais que Michel Bergeron t'a dit un jour « Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire », mais... Je voudrais quand même, sans aller dans le détail, là, je veux pas les noms.
Bon, faut que j'aille.
Non, va-t'en pas.
Ça va être dans son livre, ça.
Non, mais,
c'est ça, ouais. Ouais.
Mais j'imagine qu'il y a des athlètes plus difficiles que d'autres, des athlètes, des joueurs plus capricieux, plus exigeants, plus prima donna. Ils sont pas tous pareils, là, c'est sûr.
C'est sûr, sauf que les joueurs de hockey, là, moi, pour avoir parlé avec des jeunes amis, justement, le Montréalais Red Baddy, qui est gérant d'équipement des Packers de Green Bay, et j'ai parlé des gars qui sont dans le baseball, dans la NBA, les athlètes au hockey, là, des gars qui sont très, très polis. Je vais te dire que la plupart, là, des pas bons, là, des vrais pas bons, là, j'ai peut-être sur les doigts d'une main dans toute ma carrière.
Puis être pas bon, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il faisait?
Ben, pas bon. Tu sais, des gars qui c'est des... je peux t'en nommer un, là. Yann Nenima, qu'on avait acquis de Dallas contre Mike Libero. Écoute, lui, c'est un Finlandais. Puis, comme les Finlandais, c'est poli, c'est bien élevé. Lui, c'était tout le contraire, là. Tu sais, il y avait de la moitié animale dans lui, puis la moitié humain, là. Tu sais, c'était comme. Puis, d'ailleurs, le gars de Dallas me l'avait dit. Il dit, tiens, ben, t'as-tu que mon homme t'en vient pas pire? Fait qu'effectivement, il avait entièrement raison. Puis, d'ailleurs, on l'a vu durant l'année. Puis, c'est pas des gars que moi, j'ai eu de la misère avec eux autres. Tu sais, c'était des gars que tout le monde avait de la misère avec eux autres. Fait que quand tes propres coéquipiers peuvent même pas te sentir, là, c'est comme, OK.
Mais Pierre, tu te retires avec la réputation d'être le meilleur dans ta business à travers la Ligue nationale. Tu sais, la preuve, c'est que tu as participé aux Jeux olympiques. On a fait appel à tes services quand c'est le temps de participer aux Olympiques, Coupe du monde, ces choses-là. Tu peux dire que tu te retires vraiment là au sommet de ta gloire, de ta carrière, là?
Ben écoute, premièrement, c'est très gentil. J'apprécie beaucoup, mais j'ai jamais pensé que j'étais le meilleur, puis je le pensais jamais. Je réponds aux gens que je suis dans les 32 meilleurs. Fait que, je suis quelque part là-dedans. Écoute, oui, puis je suis encore en bonne santé. Heureusement, je vais rester avec l'organisation. Là, mon emploi reste à être déterminé, mais ça va être de quoi de plus léger, là, pas niveau hockey. Puis... Écoute, je suis rendu là. Ça fait 2-3 ans que j'y pense, là. Puis, tu sais, un moment donné, là, les nuits courtes, puis les deux matchs en deux soirs, puis tu sais, c'est quoi, hein, ouais. La route, puis tu reviens, puis pratiques le lendemain, puis un autre game, puis tu repars, puis... notre voyage qu'on a fait, là, les 5 matchs en 14 jours, là, sur la route, là, qu'on a commencé à Boston, puis on a fini à Minnesota, en passant par Dallas, puis Denver, puis Arizona, puis Vegas, puis tu sais, c'est comme un moment donné, tu dis, hey, là, ça se peut pas, là. T'sais, quand tu reviens de là, t'es brûlé bérette, puis c'est encore go, 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 là. Fait qu'à un moment donné, là, 60 ans, là, tu dis, là je fais le pas droit, prends tout plus relax un petit peu.
Et là, je comprends que ta conjointe, elle, qui s'occupait de la famille, s'en va travailler, puis toi, tu prends relève dans la maison.
Exact. Tag team dans le cadre de porte. Puis... non, disons qu'elle est bien contente. Elle est bien contente. Ça fait 12 ans qu'elle est à la maison. Elle prend soin des boys, elle prend soin des chiens. Fait que elle est bien contente. Elle va commencer à travailler en juin. Puis moi, je suis bien content de rester à l'arrière puis m'occuper de tout ça.
Là, c'est ta dernière journée. J'espère que les autres vont rentrer à l'aréna aujourd'hui et vont dire, Pierre, assieds-toi ici, profite de ta journée, regarde le match. On s'occupe de tout, là, aujourd'hui, là.
Tu devrais leur parler parce qu'à date, c'est pas ça.
Merci beaucoup
et
d'avoir été
passant,
là.
Pierre oui. est un grand amateur de vin, à part ça, Paul.
On pourra échanger maintenant qu'il y a du temps libre.
Oui. Non, ça c'est ma grande passion.
Parfait, ben, content de savoir ça. merci d'avoir été là ce matin, puis merci beaucoup pour votre carrière, c'est impressionnant.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Okay. Salut, Pierre.
Bonne journée. Au revoir.
Alors, donc, dernier match ce soir, monsieur?
Oui, dernier match Panthers de la Floride. En principe, je pense que Huberdeau devrait jouer. Huberdeau, Barkov et Giroux n'ont pas joué hier à Ottawa. Alors, probablement qu'ils vont jouer ce soir, même si dans le cas d'Huberdeau, là, on peut dire adieu au championnat des marqueurs dans la Ligue. Là, c'est Connor McDavid qui a pris une avance là, qui est quasi insurmontable. Là. Ça prendrait vraiment une performance hors de l'ordinaire ce soir pour Huberdeau. Alors, c'est ça. Puis après ça, demain, c'est le bilan de la saison. Et on rappe ça assez rapidement. Et à partir de à compter de dimanche, là, ça va être consacré à Guy Lafleur, ouais. Chapelle Ardente et Funérailles Mort.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.